suis resté seul, abasourdi par cette information. Moi qui redoutais que mon acte de destruction manque de sens, je sus avec ivresse et terreur combien mon haut fait allait signer l'alliance du symbolique et de la réalité. Le projet m'apparut dans son évidence psychédélique. J'allais tout simplement détourner un avion et percuter la tour Eiffel pour abolir cette lettre A qui me renvoyait à Astrolabe et à Aliénor. Il y a des actions dans lesquelles on se reconnaît mieux que dans le plus pur des miroirs. Certes, il y aurait quelques difficultés techniques à maîtriser. J'y penserai plus tard, cela ne m'intéressait guère. L'idée de démolir la tour Eiffel m'exaltait, qui alliait signification et beauté. Quoi de plus beau que la tour Eiffel ? Je l'avais toujours adorée, sans même savoir qu'elle était une construction de l'amour. Connaître son histoire intime me la rendait plus chère encore. Quel type ce Gustave Eiffel, intégrer l'amour de sa vie dans la plus énorme œuvre de commande de son existence. Je ferai pareil en négatif. J'intégrerai l'amour de ma vie dans le plus grand acte de destruction de mon existence. Mon unique regret, c'est que je ne verrai pas, de l'extérieur, l'instant splendide où l'avion exploserait la Dame de Fer. Mais personne ne verrait ce que je verrai. La tour, d'abord petite, puis de plus en plus immense, se rapprochait de moi jusqu'à notre baiser le plus violent de l'histoire des baisers. Enfin, un baiser de la mort qui mérite ce nom. D'emblée, je sus que le plus ardu ne serait pas de dominer l'équipage ni d'apprendre les rudiments du pilotage. La seule gageure serait de tenir, de ne pas me réveiller le lendemain en pensant que mes résolutions de la veille étaient du délire halluciné. Pour parer à ce risque de l'atterrissage, je me formulais cette phrase clé « C'est le trip qui a raison ». Il faudrait que je la répète sans trêve dès la fin des symptômes. Ce qui m'y aiderait, c'est que je l'ai toujours pensé. On n'a jamais raison en dehors du trip. À jeun, quand notre état d'esprit peut être qualifié de normal, notre cerveau adulte produit de la platitude par benne entière. On y chercherait en vain la beauté, l'honneur, l'étincelle de grandeur ou de génie qui enorgueillirait l'espèce. Même l'amour ne tire de l'âme rien d'autre que les bien nommées fulgurances. Des courts-circuits de quelques secondes. L'ivresse, elle, n'est intéressante que pendant une dizaine de minutes. Le temps restant n'est qu'inepte soulographie. Le trip dure 8 heures. Un tel laps permet de créer, de réfléchir, d'œuvrer au sens absolu de chaque verbe. D'autant que ce tiers de jour n'est pas quantifiable selon les critères habituels et donne l'impression de s'étaler sur des périodes proustiennes. Le souvenir moyen d'une journée pèse un cheveu, le souvenir du trip est un écheveau que l'on démêle une vie entière. L'activité mentale ordinaire insulte à l'intelligence et ne mérite pas de s'appeler pensée. Le trip a raison qui nous désapprend le banal et nous restitue le choc originel de toute chose. Il y avait un peu trop de femmes dont le prénom commençait par la lettre A dans mon histoire. Astrolabe, Aliénor, Artémis et son temple, l'Amélie d'Eiffel et sa tour. La voyelle première dont Rimbaud souligne la noirceur ne surgissait pas là par hasard. Le A géant qui surplombait Paris recevrait l'impact de mon désir. Il ne serait pas dit que mon amour pour Astrolabe ne connaîtrait pas son assouvissement. L'acte sexuel qui m'avait été refusé dans une chambre, je le consommerais en survolant la ville à basse altitude. Vers 20 heures, les deux jeunes femmes atterrirent d'excellente humeur. Aliénor semblait particulièrement heureuse, qui m'embrassa avec effusion. Je subis les baisers du bec de lièvre, espérant ceux d'Astrolabe pour m'en laver. Celle-ci se montra plus modérée. « Tu as aimé ?» lui demandai-je. « Beaucoup, même si tes intentions étaient discutables. » L'idiote ne savait pas que de tels propos affermissaient ma décision. J'aurais voulu lui dire que me plaire était une grâce, une rareté dont elle devait se montrer digne. Elle m'aurait ri au nez. Au bistrot d'en face, un couscous tomba à point. Les filles découvrirent l'incroyable bonheur de manger en descente de tripes. Enfin, lavée des culpabilités et interdit qui la mutile depuis des millénaires, la nourriture saute à la bouche, joyeuse comme une grenouille. Qu'on puisse sortir alourdi d'une telle pratique est impensable. Manger n'est qu'un jeu. J'y participais avec moins d'entrain que mes amis. Difficile d'avaler quand on a un avion dans le ventre. Moi qui avais redouté de ne pas tenir ma résolution, je découvrais qu'elle prenait toute la place. je ne serais pas libre aussi longtemps que je n'aurais pas accompli cet acte. Je me sentais programmé comme une bombe à retardement. Ce n'était pas le comportement d'Astrolabe qui m'en dissuaderait. Elle racontait son voyage avec un enthousiasme que je trouvais niais. J'avais beau savoir que tous les néophytes se conduisaient ainsi, cela ne m'inspirait ni empathie ni indulgence. On n'en veut jamais autant aux gens que quand ils n'y sont pour rien. Conscient de l'injustice de ma rancune, je décidai, non pas de rompre, ce qui eût rendu vigueur à ma passion, mais de m'éloigner d'elle. Mille contraintes qu'elle ne s'en apercevra pas, pensais-je. Pourquoi se compliquer la vie ? Quelques années plus tôt, j'avais rencontré un certain Maximilien Figuier, pilote de ligne. Je lui téléphonais et lui demandais à brûle-pourpoint comment on conduisait un Boeing 747. Il me répondit le plus simplement du monde. Je notais ce qu'il me dit. Je récapitulais à haute voix ces informations avant de poser cette question. « Avec vos précisions, croyez-vous que je parviendrai à piloter ce Boeing ?»« Non. Quelques séances sur simulateur de vol ne vous feraient pas de mal. » « Où trouver ce simulateur ?» Il me l'indiqua. « Vous voulez devenir pilote de ligne ?» interrogea-t-il avec une pointe d'ironie. « Non. J'écris un roman. Mon personnage prépare un détournement. Merci, Maximilien. » « Pourquoi se casser la tête ?» J'appelais le gars des simulateurs de la part de Maximilien Figuier. L'idée de participer à l'écriture d'un roman l'amusa, il me proposa de passer. Tandis qu'il m'expliquait les manœuvres sur le simulateur, je pris des notes. À un moment, il m'enleva le stylo de la main et corrigea une faute d'orthographe que je venais de commettre. « Quand tu publieras ton bouquin, n'oublie pas mon nom dans la liste des remerciements, » conclut-il. Faire le mal est à la portée du premier venu. Il suffit de dire merci à ceux qui vous y aident. Bastien, le nom du type en question, ne me laissa pas partir sans me fixer divers rendez-vous pour m'exercer seul sur le simulateur. Sinon, ça se sentira trop que ton personnage n'y connaît rien. Faut pas bâcler ça. J'ai adoré l'élan de solidarité humaine qu'a suscité mon initiative. Bien sûr, ces gens ne savaient pas qu'ils aidaient un criminel. S'ils l'avaient su, se seraient-ils comportés autrement? Bastien avait raison. Mes notes m'auraient été d'une piètre utilité sans la pratique. C'est le simulateur de vol qui m'a le plus appris. Moi qui n'avais jamais accroché aux jeux vidéo, là, j'étais scotché. Ces séances n'ont évidemment pas fait de moi un pilote de ligne, mais pour ma mission, à tort ou à raison, j'ai désormais l'impression d'être à la hauteur. Quand j'ai eu acheté mon billet pour aujourd'hui, j'ai regardé ce qui restait sur mon compte. 4 000 € environ. Pas de quoi vivre comme un milliardaire la semaine qui me restait, assez cependant pour flamber. J'ai invité Astrolabe et Aliénor à déjeuner à la Tour d'Argent. Ainsi, je ne mourrai pas sans avoir goûté le célèbre canard au sang. « Tu as gagné au loto ?» me demanda la dame moins présente dans mes pensées. « Non. Je vous devais un déjeuner. Le jour des champignons, nous ne l'avons pas eu. Tout de même, la Tour d'Argent, tu y vas fort. Notre table était près de la fenêtre que je lui montrais du menton. C'est le seul restaurant de Paris d'où l'on a vu sur le dos de Notre-Dame. » Elle regarda longuement avant de dire « C'est vrai qu'elle est encore plus belle de dos. » Sans y mettre d'affectation, j'étais devenu plus distant avec Astrolabe. Cela ne me faisait plus souffrir de l'aimer. Mes manières s'en améliorèrent, elle y fut sensible. Ensuite, elle me proposa de les accompagner chez elle. Je déclinai l'invitation. Elle ne protesta pas, mais je la vis triste de mon refus. Je songeais avec ironie que si elle m'avait offert cette déception un mois plus tôt, j'aurais été pulvérisé de joie et les jours de la Tour Eiffel n'auraient pas été comptés. À présent, trop tard, le chagrin d'Astrolabe ne m'atteignait plus. Les femmes aiment toujours à contre-temps. Hier matin, j'ai reçu cette lettre d'Astrolabe. Je la sors de ma poche pour la recopier. Zoïl, tu as changé. Je le regrette. Et ne te le reproche pas, tu dois avoir tes raisons. Ce que tu as pris pour de la froideur était le réflexe inquiet d'une femme qui se découvrait aimée au-delà de ses espérances. Non que cela m'ait déplu, au contraire, mais l'art de recevoir des diamants avec grâce n'est enseigné nulle part, et pas plus qu'une autre, je n'en ai la science. Si je t'ai perdu, je m'incline et te remercie pour les carats du passé. S'il demeurait le moindre espoir que tu me reviennes, je t'attends. Et te promets, sinon d'être plus habile, au moins de ne plus te cacher le désarroi bienheureux qui t'est dû. À toi, Astrolabe. Il y a deux manières de lire un tel message. Soit de pleurer face à tant de beauté, soit d'éclater de rire face à tant de grotesques. Il reste en moi assez d'amour pour que ces mots fassent sauter ma tête comme un bouchon de champagne, mais aussi assez de désillusion pour entendre leur possibilité de ridicule. On n'est vraiment indulgent que quand on est amoureux, fou. Dès qu'on aime un rien moins, la vacherie naturelle reprend le dessus. Je scie entre ces deux stades. En même temps, avoir recopié ce billet produit son effet. Recopier, c'est activer le pouvoir des mots. Une partition émeut davantage quand on la joue que quand on la lit. Je m'en trouve affaibli dans ma résolution. Maudit astrolabe, je ne fléchirai pas. Je sais pertinemment qu'il serait facile de renoncer à mon projet. Il suffirait de quitter l'aéroport, de te rejoindre, et je pense que la présence de ta neuneu d'écrivain ne m'empêcherait pas cette fois de parvenir à mes fins. Tu as atteint l'état qui était le mien cet hiver. Tu ne me refuserais rien. Je t'ai tant voulu ainsi. J'ai tant désiré te voir aussi convulsif que moi. Mais je serrerai les dents. Je n'écouterai pas cette effusion qui me pousse vers toi. Ce qui arrive trop tard est indigne, voilà tout. Et puis, je me suis juré de tenir. Ulysse, ne cédant pas au chant de la sirène, me comprendrait. Le problème des sirènes, c'est qu'elles ne chantent jamais au bon moment. Il va être temps. Je vais aller aux toilettes de l'aéroport avec mon sac. À la boutique hors taxe, j'ai acheté une bouteille de cristal Roder. On peut se demander pourquoi j'ai choisi cette marque, hein, pour l'usage que j'en aurais. La dernière qualité de champagne eût convenu. Il m'a semblé que mes victimes méritaient d'être dégommées avec du haut de gamme. Je briserai la bouteille sur la cuvette des WC et j'en ramasserai les plus grands tessons, dont le goulot, qui me tiendra bien en main, sera ma meilleure arme. Ce sera une pitié de gaspiller ce vin, mais il faut ce qu'il faut. Pas question d'en boire la moindre gorgée. J'ai besoin d'un esprit sec. De toute façon, le nectar ne sera pas assez glacé. Astrolabe était le seul champagne assez froid pour moi. Tant pis. Je mourrai sobre. Quand l'avion aura décollé, il me faudra aller en cabine avec le goulot et égorger les pilotes aussitôt. J'ai réfléchi. Puisque je ne sais si je suis capable d'un acte pareil, l'unique solution pour moi est de ne pas y penser. La moindre préparation psychologique anéantirait mes forces. Le geste ne doit pas être bien compliqué. Je l'ai vu 100 fois au cinéma et répété 1000 fois devant un miroir. Il importera de ne penser à rien. À cette fin, j'ai prévu d'avoir en tête à ce moment-là le Voyage d'hiver de Schubert, parce qu'il n'y a aucun rapport entre cet acte et cette musique. Quand ce sera accompli, je prendrai les commandes de l'appareil. Je me réjouis. Ce sera le moyen de vérifier la validité des enseignements de Maximilien Figuier et de mon entraînement sur le simulateur. Dans tous les cas, cela se terminera par un crash aérien. La tour Eiffel, c'est mieux et moins banal qu'un hôtel de 3e catégorie à Gonesse. Dans le fond, est-elle exacte cette histoire avec la lettre A ? La porte de la cabine de pilotage sera fermée de l'intérieur. Je serai, à bord de cet avion, le seul maître après Dieu. À mon avis, la sensation sera formidable. Si les choses se déroulent comme prévu, je conduirai mon vaisseau vers Paris. Nous sommes le 19 mars, le ciel est dégagé. La lumière est encore d'une pureté hivernale, la vue sera magnifique. J'aime ma ville natale, je la chérirai plus que jamais. C'est un phénomène que j'ai remarqué souvent. Pour aimer un lieu, il faut l'avoir contemplé de haut. Ce doit être pour cela qu'on imagine Dieu au-dessus de la terre. Sinon, comment ferait-il pour nous aimer? J'arriverai du nord. Je tournerai légèrement vers la droite, survolerai l'Arc de Triomphe. Derrière le Trocadéro, le A géant de la tour Eiffel m'attendra d'aplomb. Je l'aimerai de cet amour qu'inspire ce qui est à notre merci. J'espère sincèrement que mon intervention n'amochera pas le si joli palais Galliera et ne rendra pas illisible la superbe phrase de Valéry gravée sur le palais de Chaillot. L'hôtesse va bientôt convier les passagers à monter à bord. Je refuse de prier pour du courage. Cela supposerait que je puisse n'en pas avoir. Je ne veux pas envisager l'insuccès de ma mission. Je vais réussir, je le sais. Je ferme les yeux, je me concentre. Je sens déjà le grand corps de la tour Eiffel. Quant à moi, je fais tellement corps avec mon avion que je jouis de tout mon métal. Jamais je n'avais eu à ce point la perception de mon squelette. Ce doit être cela, l'amour. Me voici à bord. Les stewards qui vont mourir me saluent. Nous décollerons d'ici peu. Le printemps va pouvoir commencer.